Con toda palabra.
Bonjour, pour cette nouvelle émission À l'air livre, j'accueille aujourd'hui Arnaud Bertina. Arnaud Bertina est un jeune écrivain français né en 1975 qui a publié deux romans aux éditions Actes Sud. Le premier, son tout premier roman, Le Dehors ou la migration des truites en 2001, suivi de Apogeo en 2003, ainsi que plusieurs autres livres que je vais vous énumérer à présent. Une fiction parue sous un pseudonyme, Pietro di Vaglio, La déconfite gigantale du sérieux, un titre assez intrigant aux éditions Ligne en 2004. Arnaud Bertina a été pensionnaire de la Villa Médicis à Rome en 2004-2005 et il a écrit à cette occasion un ouvrage assez étrange en collaboration avec Bastien Gallet, Ludovic Michaud et Johan de Roeck, une farce archéologique telle qu'ils la nomment eux-mêmes, Anastylose Rome, -13-9, 1942. Une sorte de farce, comme ils le disent, mais aussi une réflexion sur le renouveau d'un certain fascisme dans ses années de résidence où il était pensionnaire à la Villa Médicis. Ça, c'est publié aux éditions Phage en 2006. Son troisième roman est sorti aux éditions Verticales en septembre 2006, Anima Motrix, et en même temps il a fait paraître une fiction biographique consacrée au musicien Johnny Cash, J'ai appris à ne pas rire du démon, aux éditions Naïve dans la collection Session. Il vient de publier un autre livre, Ma solitude s'appelle Brando, toujours aux éditions Verticales, qui est également une hypothèse biographique, un récit biographique dont nous allons un petit peu parler pendant cette rencontre, mais nous allons évoquer surtout l'ensemble de son travail, sa façon d'appréhender l'écriture à travers ces textes assez différents et en même temps tous reliés les uns aux autres. Je le rejoins à Paris, au-dessus de la gare Montparnasse, dans un univers assez inattendu.
Donc là, j'enregistre vraiment. D'ailleurs, je commence en enregistrant et je te redis bonjour.
Bonjour Pascal.
Arnaud Bertina. On s'amuse là. Alors, j'ai envie de faire profiter les auditeurs de ça parce que on était en train de se lancer dans une longue conversation déjà, mais j'avais pas encore branché l'appareil. Donc, on recommence tout, Arnaud. On va essayer de retrouver cette spontanéité. Et j'étais en train d'évoquer ce jardin où tu as eu envie qu'on se retrouve pour cet entretien, ce jardin suspendu qui est au-dessus de la gare Montparnasse, qui est un lieu assez étrange et inattendu.
Oui, et que peu de gens connaissent en fait, et c'est ce qui fait son charme en partie, parce que résultat c'est un jardin très calme, il y a très peu de passages, mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment on pouvait y accéder, c'est-à-dire je connaissais l'existence, j'en avais vu des photos, et puis mais je voyais vraiment pas par quelle boule prendre. Et puis un jour j'ai trouvé l'ascenseur, et donc j'ai réussi à monter comme ça sur la dalle. Et de fait, il est étrange parce qu'il y a des lavandes, il y a des arbres, il y a plusieurs essences d'arbres. Alors qu'en dessous, juste en dessous, sous la dalle, et on les entend même, il y a les TGV qui partent. Et donc, puis cette gare Montparnasse, quand même, elle est un peu inhumaine, elle est vraiment très sans aspérité, que du béton, etc. Et donc le contraste entre le sous-sol, les trains qu'on entend gronder en dessous de nous, et puis les arbres comme ça, et ce côté très bucolique, surtout quand il fait un peu beau, les gens sont allongés dans l'herbe. Là, j'aime beaucoup ce truc-là. Il y a un truc de voyage immobile qui est qui est assez curieux.
Bah, surtout au-dessus d'une gare, c'est vraiment adapté. Il y a même des terrains de tennis. Et puis on voit quelques bâtiments autour, j'ai envie de donner un petit peu cette ambiance aussi visuelle, qui sont très modernes aussi, très froids, tout en verre et en acier.
Ouais. C'est des bureaux, mais par contre celui-ci est très connu, là sur la gauche, et donc ça correspond à je sais plus quelle avenue, en face du petit journal Montparnasse, et qui a été souvent reproduit en photo parce qu'il a été construit je crois à peu près en même temps que la gare, et la façade qui est sur l'avenue en fait est très très particulière. Je sais que dans l'architecture c'est un immeuble qui est souvent reproduit, et c'est assez beau. Il y a toutes les vies, tous les appartements sont conçus avec des rideaux différents. L'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un qui y vit et qui racontait que c'était particulièrement gênant cette charte, disons, qui avait été imposée par l'architecte, parce que résultat, dès qu'il y avait un rideau qui était déchiré ou qui tombait, il fallait attendre 2-3 mois avant qu'il soit réimprimé. C'est compliqué.
Les joies de la vie moderne. Donc on va rester un petit peu ici à se promener. Je trouve que c'est assez adapté, ce mélange entre la modernité et puis la nature, la lavande qui pousse au-dessus des voies TGV. Mais je sais pas, peut-être que c'est un univers que tu apprécies aussi pour ça, pour cet éclectisme, parce que c'est quelque chose qui te caractérise aussi finalement.
Bah, en fait, en t'écoutant là, je me dis oui et non. C'est-à-dire, moi, mon goût naturel, il ira beaucoup, beaucoup plus vers quelque chose qui sera plus nettement naturel, en fait. C'est-à-dire, j'ai vraiment des rêves permanents de forêt, de campagne et tout. Et dès que je peux, c'est vers ça que je vais. Et donc là, en l'occurrence, effectivement, ce mélange-là entre la nature et puis, par exemple, des lampadaires qui sont très, très stylisés ici ou les immeubles qui sont tout en verre. Non, me plaît pas particulièrement. Ouais. En revanche, je vois bien pourquoi tu dis ça, c'est-à-dire il y a ce désir de nature comme ça dans mes bouquins, et ça se combine avec une forme qui semble très comment dire, très travaillée, très, oui. et donc un peu moins naturelle, un peu plus artificielle. Et là, tu vas assister à un vrai moment de radio, parce que là, il y a Véronique Ovaldé qui arrive.
Incroyable. Hein. On a bien fait de faire une petite pause tout à l'heure. On va lui dire bonjour en passant. On s'est rencontrés à Marseille il n'y a pas très longtemps.
On va même lui demander de dire bonjour.
Un petit mot, de dire bonjour à la radio. Bonjour, Véronique Ovaldé.
Bonjour, chers amis. C'est amusant de vous rencontrer là, dans ce jardin.
C'est très amusant pour nous aussi. Oui. Nous sommes en train d'enregistrer une émission pour Radio Grenouille à Marseille.
C'est vrai ?
Voilà, donc on se retrouve, on parlait de nature et de...
Et de train.
C'est quand même l'endroit adéquat ici, voilà. Hein,
c'est parfait. Bonne
ça
promenade alors.
Ouais, oui, à très bientôt.
Oui. Salut, peut-être qu'après on viendra te voir pour rester avec toi pendant une petite heure. Au revoir. Alors, vous êtes donné rendez-vous ici?
Pas du tout. Pas du tout. Non. C'est pas le lieu de notre 5 à 7 ou quoi que ce soit. Alors, oui, je comprends bien ce truc-là. Mais en fait, c'est marrant parce que je conçois pas du tout ce que j'écris comme étant quelque chose ni d'excessivement moderne. En tout cas, je le pense pas comme ça au départ. Quoi. C'est-à-dire que je cherche pas à truffer le roman de choses comme ça qui pourraient faire très artificielles, etc. J'ai pas besoin de... Par exemple, il y a des gens, ça les rassure de voir ce jardin-là, c'est-à-dire de voir des arbres, de la nature, et puis de voir aussi des choses, voilà, du béton, et puis de voir des lampadaires comme ça, ça les rassure, parce que des fois, il y a certaines personnes, la nature à nu, ça les angoisse, etc. Moi, c'est pas du tout le cas, et c'est pas le cas non plus à l'intérieur d'un roman, c'est-à-dire qu'un roman très classique ne me pose aucun problème. Simplement, moi, j'ai besoin d'y mettre des accidents. Voilà, quand j'écris, j'ai besoin d'y mettre des accidents, parce que j'ai l'impression que dans ces accidents, c'est un peu comme des trous noirs de matière, c'est-à-dire tout d'un coup, il y a plein de choses à l'intérieur de cet accident-là. Mais voilà, c'est pas pour complexifier, ou c'est pas pour faire moderne, ou c'est pas pour faire artificiel, quoi. C'est...
D'ailleurs, la nature, effectivement, elle apparaît dans ton livre, mais peut-être parfois sous forme de rêve ou d'échappée, et elle est pas immédiatement présente. Hein, et je me demande si justement ce type de lieu où la nature est domptée, domestiquée, effectivement c'est un peu à l'opposé de ce qui t'arrive et de ce qui arrive dans tes textes, où la nature, au contraire, quand elle apparaît, elle n'est pas du tout domestiquée, et c'est à l'image de la vie que tu mets dans tes livres, cette espèce de surgissement et de démesure de la nature.
Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'aimerais arriver à faire, quoi. C'est-à-dire toujours montrer tout d'un coup comment une vie, un personnage peut comment dire, s'ouvrir au jaillissement, à une part de sauvagerie, etc. Quoi. C'est-à-dire, en fait, tous mes personnages ont toujours un problème avec les conventions sociales, avec la famille, avec une certaine idéologie, une certaine morale, etc. Et le suspense à chaque fois dans tous mes romans, c'est toujours comment faire pour que ils arrivent à résoudre ce dilemme, et comment faire pour qu'ils arrivent à retrouver une part de sauvagerie et de liberté, en fait. Et donc c'est très souvent, effectivement, ça m'amène à les faire se confronter à la question de la nature, quoi. Est-ce qu'ils vont arriver à se mettre en phase avec ce jaillissement là qu'on peut voir dans la nature, avec aussi cette espèce de tranquillité là dans la nature, c'est-à-dire le fait que ça meurt, ça vit, ça renaît, ça meurt, ça vit, ça renaît. Et j'essaye de faire que mes personnages arrivent à éprouver leur liberté grâce à ça, en fait, grâce à la présence de cette nature-là. Oui, ça c'est quelque chose qui est un peu commun en fait à tous les bouquins. Ouais.
Ouais. On le sent particulièrement dans Anima Motrix, je trouve, où il y a cette confrontation directe, peut-être plus par rapport au précédent et à ce qui a suivi aussi.
Uh-huh. Oui, oui. Mais par exemple, c'est aussi dans la déconfite gigantale du sérieux, puisque le personnage, en fait, au départ, est une sorte de jeune citadin dans les années 1830. Et puis, en fait, en allant en Italie, puis en quittant Rome, en sortant de Rome le soir, la nuit, pour rentrer à son auberge, voilà, il traverse la forêt, et puis il se retrouve dans des auberges, comme ça, perdu au milieu de la forêt. Et il y a aussi déjà chez lui une espèce d'histoire de métamorphose, c'est-à-dire qu'il y a une scène notamment où je récupère il se transforme en cheval comme ça, c'est pas dit explicitement, mais il y a vraiment un peu cette dimension centaure, etc. Et c'est vrai qu'après ça, ce truc là de métamorphose un peu animale, je l'ai récupéré beaucoup plus dans Anima Motrix. Oui. Mais en même temps, dans Anima Motrix, cette nature là elle avait un statut très très compliqué, parce que l'idée c'était en refaisant venir de l'animal en moi, c'était pas refaire venir de la barbarie, de la sauvagerie, etc. C'était au contraire à nouveau pouvoir être à nouveau en dialogue avec les hommes, quoi. C'est-à-dire avec ses contemporains, avec les gens qui l'entourent, avec les gens auxquels il a fait du mal, etc. Donc c'était pas c'est pas le fantasme comme ça de voilà, d'une espèce de sauvagerie animale. C'est pas du tout ça. En fait, moi, c'est-à-dire, c'est un truc, c'est en reconquérant une part d'humanité, il reconquiert aussi l'animal, quoi. Il y avait enfin, je sais que je suis pas très clair, mais en fait, j'ai été très étonné, moi, par d'apprendre que dans la philosophie contemporaine, notamment française, depuis Derrida, etc., il y a toute une part des philosophes qui réfléchissent beaucoup à la place de l'animal, en fait. Et je me disais, tiens, dans un premier temps, je me disais, tiens, c'est étonnant, comment ça se fait que c'est devenu un thème de réflexion chez eux. Et puis, en fait, si, j'ai bien compris qu'évidemment, dans notre rapport à l'animal, se joue aussi notre rapport à l'autre en général, quoi. Et donc, si on arrive à avoir un rapport plus respectueux à l'animal, notamment via ce qu'on mange, etc., on arrivera aussi à régler beaucoup de choses dans notre rapport aux autres, aux gens qui nous entourent, avec lesquels on vit. Et voilà, ça, j'avais très envie que ce soit un peu au cœur d'Anima Motrix aussi, ça.
Alors, là, il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu viens de dire. C'est à la fois cette réflexion sur les penseurs, les philosophes. Et je me demande si ça te nourrit beaucoup par ailleurs, et pas forcément sur cette réflexion autour de l'animal dont tu parlais. Et puis, juste avant, tu as dit que c'était... pour Anima Motrix, comme une étape aussi pour le personnage, en retrouvant l'animal, en retrouvant la nature, une étape pour lui, mais aussi, si j'ai bien entendu ce que tu as dit, pour toi. C'est-à-dire que ce livre-ci, sorti à ce moment-là, peut-être que pour toi c'était une étape aussi. Est-ce que c'est le cas ?
Alors d'abord, la question des philosophes, moi je lis pas du tout de philosophie parce que j'y arrive pas, tout simplement. C'est-à-dire que moi, vraiment, ma langue maternelle, c'est vraiment le roman, c'est la fiction, et c'est-à-dire c'est des choses très concrètes, en fait. C'est-à-dire dès que ça tourne du côté de l'abstraction, je oui. décroche, j'arrive pas à suivre, je comprends pas du tout cette langue-là, même quand elle est pas trop compliquée. Donc en fait, je lis très peu de philosophes, malheureusement, alors que ça m'intéresse beaucoup, et j'ai des amis qui, étant philosophes, j'en ai deux ou trois qui sont très pédagogues et qui savent très très bien me montrer à quel point la philosophie est toujours en phase directe avec des éléments très concrets. Mais ça, moi, tout seul, j'arrive pas à faire ce chemin-là, et donc je suis trop souvent perdu dans la philo pour arriver à en lire un petit peu de temps en temps. Ensuite, par rapport à Anima Motrix, je sais pas si c'est une étape, c'est-à-dire que pour moi c'était vraiment un livre, c'est un livre vraiment important pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup j'ai eu le sentiment, voilà, d'arriver à commencer à faire des choses à l'intérieur du roman que je n'arrivais pas à faire avant. J'ai eu le sentiment, par exemple, d'arriver à mélanger un peu mieux les tons. Depuis des tonalités un peu grotesques, un peu bouffonnes, jusqu'à des tonalités plus politiques ou tragiques. Et ça, c'est un peu mon idéal, en fait, en écriture. C'est-à-dire, mieux j'arriverai à mélanger ces tons-là, le plus subtilement j'arriverai à le faire, plus je serai heureux en écrivant. Mmh. Et là, voilà, j'avais le sentiment de... Par exemple, dans Le Dehors, qui était mon premier roman sur la guerre d'Algérie et tout, voilà, il y avait une certaine tonalité, le livre était assez uniforme, et je sentais déjà à ce moment-là que ça ne me suffisait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire vivre dans ce que j'écrivais. Et dans le deuxième, Apogeo, où j'ai beaucoup plus traqué cette dimension un peu grotesque, bouffonne, d'un corps qui serait beaucoup plus vivant, voilà, là, ça me plaisait beaucoup plus, mais je ne sais pas, le livre a été bizarrement reçu, apparemment il était difficile, je ne sais pas. Donc c'est un bouquin quand même qui me reste assez cher. Et dans Animamotrix, voilà, j'avais l'impression de réussir à tenir les deux bouts, c'est-à-dire de tenir cette tonalité politique-là et d'arriver à bien la marier aussi avec une dimension un peu grotesque. Mmh. Et pour moi, c'est très important parce que c'est le moment où on va vraiment arriver à rendre justice en fait à la richesse de tout ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vrai que même au plus noir du drame, c'est pas vrai qu'on n'arrive plus à respirer. Je veux dire, bien sûr qu'il y a des personnes qui n'y arrivent plus, mais même dans les situations les plus dramatiques, il y a toujours des moments où on arrive en fait à faire vivre quelque chose qui serait de l'ordre de l'énergie, de l'ordre de l'humour. La chose la plus sidérante pour ça, c'est les repas d'enterrement. Je veux dire, il y a quantité de repas d'enterrement, sauf quand ce sont des enterrements tragiques, parce que la personne est morte beaucoup trop tôt, ou bon. Mais quand ce sont des enterrements, disons, naturels, ouais. Très souvent, ce sont des repas assez joyeux. On retrouve la famille et puis on a besoin de cet humour-là, on a besoin de cette vie-là pour justement prendre le dessus par rapport au deuil. Et ben voilà, moi, c'est typiquement ces moments-là que j'essaye de traquer en fait dans les romans. C'est-à-dire des moments excessivement intenses politiquement, humainement, des moments qui peuvent être déchirants, des vrais moments de rupture dans la construction du personnage, mais en même temps d'arriver à faire entendre ce qui survit quand même, quoi. C'est-à-dire ce qui est quand même encore de l'ordre de la vie, de l'énergie, de l'humour, etc.
On a l'impression d'ailleurs, quand tu parles de survie, quand en réalité tu parles de vie, c'est-à-dire que, et dans tes romans et dans tes propos là, la vraie vie, c'est justement ce qui surgit tout le temps et ce qui survit tout le temps. Ce qui, dans ce jardin par exemple, si on le laisse à l'abandon pendant un an ou deux, va peut-être percer la dalle et arriver jusqu'aux voies de TGV inutilisées. Donc ça m'intéresse beaucoup aussi. Pour revenir à ces histoires de grotesque qui se lient au sérieux et de différentes voix aussi que tu cherches à mixer, à mélanger dans tes romans, on revient un petit peu aussi à mon idée de départ de parler de l'éclectisme, ce mélange, alors plutôt que d'éclectisme, peut-être justement de cette recherche de mélanger les genres autant que possible, et les genres, et les voix, et les formes, qui me semble aussi être assez caractéristique de ce que tu cherches.
Oui, tout à fait. Moi, vraiment, le mot mélange, c'est un mot qui me va complètement. Et puis même, des fois, je l'assaisonne avec le mot impureté. C'est-à-dire que le roman, c'est un genre bâtard. Et j'aime beaucoup cette bâtardise-là. C'est-à-dire c'est un genre qui permet tout. C'est un genre qui n'a jamais été codifié. Ceux qui ont fait un tout petit peu d'études de lettres savent que Racine, Corneille, à chaque fois qu'ils publiaient une nouvelle tragédie, l'Académie leur tombait sur le dos en leur disant « Attendez, là, vous n'avez pas le droit de faire une scène qui soit aussi longue. Vous n'avez pas le droit de faire un acte qui soit avec tant de scènes, vous n'avez pas le droit de faire un vers où vraiment là il y a un muet, il est vraiment douteux, etc. » Donc il y avait une rigidité considérable en fait formelle. Le roman n'a jamais eu d'académie sur le dos comme ça, et parce qu'il n'a jamais été codifié, notamment pendant l'Antiquité évidemment, puisqu'il y a le genre romanesque n'existait pas encore. Donc résultat, puisqu'il n'y avait pas de texte canonique sur le roman, voilà, il y a une espèce de liberté, on peut tout faire à l'intérieur du roman. Et cette plasticité là, cette malléabilité incroyable, moi c'est quelque chose qui me stimule énormément. C'est-à-dire que le fait de me dire que je vais écrire un roman, voilà, tout d'un coup, c'est comme un âne à qui on met une carotte devant lui, ben voilà, ça me fait marcher, quoi. C'est-à-dire je vois que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir tenter plein de choses. Et ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Donc effectivement, le mélange, il vient et trouve sa place tout naturellement à l'intérieur de ça, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du roman, puisqu'il a cette malléabilité-là, je vais pouvoir tenter de mélanger quantité d'humeurs différentes, quantité d'horizons différents, et essayer de faire un tout avec ça, quoi. C'est-à-dire, c'est pas des scènes éparpillées, etc., mais vraiment de faire un tout. Sur Animamotrix, j'ai rencontré en amont de l'écriture du livre, j'étais dans l'Italie du Sud, et j'ai rencontré dans des espèces de centres de rétention, j'ai rencontré des réfugiés. Et c'était étonnant parce que passé les deux premières heures où il fallait quand même essayer de gagner un petit peu leur confiance, qu'ils comprennent vraiment que j'étais pas flic, même pas journaliste, etc. Une fois que cette confiance elle était accordée, on passait des soirées qui étaient assez heureuses, alors que ce qu'ils me racontaient, c'était des horreurs, c'était des moments de vie que moi je pouvais pas imaginer supporter. Ça tournait très vite à la blague, c'était des repas très pauvres mais très joyeux. Et donc je me dis, mais bon sang, je n'ai pas le droit moi ensuite de venir tirer des larmes aux gens. Je veux dire, il faut que je traque la vie qui est dans ces gens-là, parce que si je traque la vie qui est dans ces gens-là, si j'arrive à rendre compte de cette vie-là, je leur rends beaucoup plus hommage. C'est-à-dire que je peux décider de mettre l'accent sur la difficulté et la douleur. Le problème, c'est que je mens, parce qu'à ce moment-là, moi, ce que j'ai vu, ce sont des gens qui, malgré toutes ces difficultés-là, avaient encore l'énergie d'être pleinement vivants. Et donc, moi, je dois, en tant que romancier, cherchant à rapporter ces moments-là, cette parole-là, je dois à tout prix gorger mon texte, faire rentrer dans mon texte toute cette vie-là. pour rendre hommage à ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils sont plus forts que la mort. Quoi. Pour moi, c'est vraiment hyper important cette leçon de vie-là.
D'ailleurs, le simple surgissement de ces personnages et de ce thème, alors là, évidemment, complètement journalistique et d'actualité, des réfugiés, des immigrants, des clandestins, dans un livre qui, a priori, ne va pas forcément vers ça, et qui peut sembler... pour certains très formel. Donc cette irruption là de la réalité, puisque tu l'acceptes, toi, de l'y faire rentrer, c'est déjà le signe que ça doit y rentrer, que ça s'impose d'une certaine façon à l'écrivain que tu es.
Oui, j'essaye de... Après, c'est aussi une leçon personnelle, quoi. Enfin, c'est un mode de vie que j'essaye d'avoir, c'est-à-dire de pas faire que ma vie soit trop sur des rails, de pas faire que mes idées soient trop cadenassées, verrouillées, etc. D'essayer toujours de rester en mouvement, quoi, intérieurement, et donc de laisser la place à l'intérieur de ma vie, de mes opinions, etc., pour ce surgissement, voilà, de choses... En fait, moi... Écrire, pour moi, c'est... Une fois, je suis tombé sur une citation que j'ai trouvée très belle, c'était dans l'Universaliste, c'était un universitaire qui faisait un article sur Goethe, et il disait à un moment que, pour Goethe, écrire, c'était pas faire acte de littérature, mais pratiquer une hygiène mentale. Et j'aime énormément cette phrase, parce que elle dit exactement ça, c'est-à-dire, elle dit, voilà, on n'est pas dans un cadre noble, on n'est pas dans un cadre sérieux, on est juste dans quelque chose qui va nous permettre de respirer plus, de respirer mieux. Et ça, pour moi, c'est très très précieux. C'est-à-dire, il y a souvent des gens qui disent, ouais, écrire, c'est une thérapie. Alors ça, je déteste ça, parce que ça sous-entend qu'on est malade au départ, quoi. On est tous malades, tous névrosés, ça m'intéresse pas, ce discours-là. Par contre, dire que c'est pratiquer une hygiène mentale, pour moi, j'entends ça, voilà, c'est comme le matin, quand on se lève, on ouvre la fenêtre de la chambre pour aérer, quoi. Ben, écrire, pour moi, c'est passer mon temps à ouvrir la fenêtre pour aérer mes idées, pour aérer mes façons de voir, pour aérer les représentations qu'on a en partage, etc. Et donc voilà, moi, mes bouquins, ils sont toujours un peu au-devant de moi. Encore une fois, c'est l'image de la carotte, quoi. C'est un peu comme un palais que je lance devant moi, et voilà, ça m'autorise à avancer de 3 cases supplémentaires, quoi. C'est-à-dire que la souplesse que j'essaye d'inventer pour mes personnages, la plasticité que j'essaye de leur donner, comme dans Animamotrix, justement, où ce type, finalement, il remet toute sa vie en chantier, et puis il est dans un processus de transformation, c'est justement parce que j'essaye de faire que moi aussi, je sois toujours dans ce processus de transformation-là, quoi. J'essaye d'être dans cette plasticité-là. Je crois pas à l'histoire comme ça d'individualité, de singularité. Je crois pas que j'ai un moi profond quelque part qu'il faudrait que j'aille chercher. Ça, vraiment, pour moi, c'est un petit peu bidon, ces histoires-là. Je pense que mon moi, mon individualité, elle est toujours au-devant de moi, quoi. Et puis, il faut toujours qu'elle reste au-devant de moi. C'est-à-dire, il faut rester en mouvement, quoi. Donc oui, tous mes personnages sont toujours lancés, sont toujours dans un mouvement. Le livre se clôt jamais. À chaque fois, je donne au livre, je donne toujours une fin ouverte. Voilà, c'est parce que c'est toujours des processus, et les processus, j'ai pas envie de les voir s'arrêter, se stabiliser à un moment, quoi.
Je te propose de marcher un tout petit peu, d'avancer un petit peu avant de changer un tout petit peu d'ambiance. On va rester quand même dans ce jardin, je pense. On est bien, mais revenir sur cette idée de mouvement juste après. À l'air libre, Pascal Jourdana,
Arnaud Bertina.
Voilà, Arnaud, on a changé d'endroit, mais on est toujours dans ce petit parc sur la dalle de la gare Montparnasse, avec la tour Montparnasse cette fois en face de nous. Donc là, c'est encore plus étrange, c'est ce surgissement de la minéralité, enfin du béton et du verre. Je voudrais qu'on revienne sur quelques propos que tu évoquais tout à l'heure, cette envie que tu as dans tes livres de débusquer la vie et de vraiment d'être en dehors de la théorie, en dehors de l'abstrait. Parce que justement, moi, il me semble que tu es parfois perçu comme un auteur, au contraire, qui construit beaucoup, qui est peut-être assez abstrait pour certains lecteurs et certains critiques. Et moi, il me semble que l'impression que j'ai, c'est que tu es plutôt dans le jeu, et plutôt dans l'envie de fabriquer effectivement certaines choses, mais d'une manière ludique. Et d'ailleurs, il y a certains livres qui le montrent clairement, puisque tu t'amuses à faire... à faire des fausses traductions. Tu t'amuses à faire une farce archéologique. Et que si on accepte de te lire comme ça, je pense qu'on peut... On peut découvrir des choses complètement différentes.
Oui, tout à fait. En fait, la difficulté, je pense, qu'il y a avec mes bouquins et ce que je fais, c'est le... J'avais cette image une fois de... Voilà, t'as une rose, t'as un bouton de rose, et voilà, il va mettre du temps à s'ouvrir, et puis à un moment, boum, il s'ouvre complètement, et puis là, on a accès à toute la fleur, quoi. C'est-à-dire, on avait un truc très fermé, et puis on a attendu, et puis hop, tout d'un coup, on voit tout s'ouvrir, et puis là, on est face à quelque chose de sublime. En fait, je pense que j'espère que c'est ce qui se passe peut-être avec mes livres quand je tombe sur un lecteur bienveillant ou qui, en tout cas, a envie comme ça d'attendre et de traquer. C'est-à-dire que à la première lecture, on a le sentiment d'être face à quelque chose de très fermé, de très hermétique, quoi, qu'on va pas du tout pouvoir, dont on va pas jouir du tout, quoi. Et puis, en fait, moi, je fais le pari que si le lecteur ensuite attend un petit peu, par exemple s'il laisse les choses retomber un peu en lui, s'il le réouvre, s'il en relit quelques pages, ou s'il le relit complètement un an après, ou s'il le relit tout de suite, c'est-à-dire une fois qu'il a déblayé un peu le terrain quand même et qu'il a quand même quelques points de repère dans la tête, ben là je fais le pari qu'à ce moment-là, il est plus que face à la jouissance de oui. cette histoire, ouais. de ce parcours-là et de la façon que j'ai de le raconter, quoi. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait, chacune de mes histoires, je pourrais la raconter de manière très linéaire et très ouais. évidente. Ouais. Le problème, c'est que j'aurais le sentiment à ce moment-là de perdre énormément en densité humaine. C'est-à-dire que, par exemple, Anima Motrix, je pourrais dire dès le départ que ce type est en fuite. Et pourquoi il est en fuite ? Il est en fuite, voilà, à cause des réfugiés, etc. et tout. Bon. Si je le dis, c'est-à-dire je le dis de manière elliptique, mais je le dis pas très clairement. Mais si je le dis dès le départ, on est déjà plus dans un processus ouais. de transformation. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la métamorphose, on s'en fout. C'est-à-dire comme si le personnage, sa vie était déjà réglée. Bah oui, alors dans ce cas-là, il suffit de lui faire rencontrer tout de suite les réfugiés, puis il va les entendre, etc. En fait, moi, j'ai vraiment toujours l'idée que l'écriture d'un bouquin, comme sa lecture, c'est un processus, quoi. C'est-à-dire que pendant un temps, on est perdu, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on est, et hop, ensuite, les choses commencent à se stabiliser un petit peu, et tout d'un coup, on comprend où on est. Tu sais, c'est comme on rentre dans une pièce, dans le noir, bah, le temps que notre vue s'adapte, ouais. on ne sait absolument pas ouais. où on est et quelle est la configuration de la pièce, et puis c'est bizarre, au bout de 5 ou 6 minutes, en fait, on se rend compte qu'on voit quasiment comme en plein jour, on voit tout à fait où sont les meubles, mmh. etc., etc. Moi, il y a que ça qui m'intéresse en littérature, quoi. C'est-à-dire, c'est ce moment-là où tout d'un coup, ensuite, les choses elles, se stabilisent, le moment où on commence à comprendre. S'il fallait systématiquement donner pour chaque personnage sa carte d'identité dès le départ, et puis grosso modo décrire quelle va être l'action, mais je vois pas ce que la littérature déplace à ce moment-là. C'est-à-dire, je vois pas quel bien elle fait au lecteur ouais, ouais. Si de toute façon le lecteur est jamais face à quelque chose qu'il ne comprend pas, qu'il ne maîtrise pas. Mais s'il y a une chose qui m'est bien étrangère, c'est vraiment l'idée de jouer avec les nerfs du lecteur. C'est jamais ça.
C'est-à-dire... Oui, c'est pas de ce jeu-là dont je parlais, effectivement.
Ouais, c'est-à-dire, parce que ça, c'est des fois, on me dit ça, on me dit, mais en fait, ça vous fait plaisir qu'on comprenne rien, etc. Mais je dis, mais jamais de la vie. Moi, quand j'écris et que tout d'un coup, je me dis, tiens, cette phrase-là, je vais l'interrompre, ou tiens, ce paragraphe-là, je vais l'interrompre, et donc, résultat, il va manquer quelque chose. Mais je me dis juste, ça, c'est parce que ça va être très beau de faire ça. Tu vois, je me dis jamais, tiens, hop, là, je ne vais pas lui donner le renseignement, je lui retire et tout. Non, je me dis toujours, là, ça comme ça, c'est très beau. Et donc, ensuite, je pourrais tout à fait prendre chaque lecteur par la main et puis lui dire, tiens, regarde pourquoi là, j'ai fait ça, etc. Et ça, j'adore ce travail d'explication. C'est pour ça que souvent, quand je participe à des rencontres littéraires en bibliothèque, en librairie, etc., je suis intarissable parce que j'adore essayer de convaincre. Simplement, je sais qu'il faut du temps et il faut que le lecteur soit bienveillant. C'est-à-dire qu'il ait la curiosité de revenir ensuite sur le livre et de... Par exemple, dans Anima Motrix, tu disais tout à l'heure, voilà, pendant longtemps dans le livre, on voit pas trop où on est, puis tout d'un coup, il y a la question des réfugiés qui arrive comme ça. Je pourrais prendre le livre et puis le reparcourir avec toi et puis te montrer à quel point, en fait, cette question des réfugiés, elle est annoncée dans toutes les pages qui précèdent. Tu vois, dans les 200 premières pages, elle est annoncée en permanence, elle est là. Simplement, elle est là, elle flotte comme un espèce de parfum qui est pas encore très clair, quoi. C'est un peu l'histoire du Dormeur du Val, le célèbre poème de Rimbaud, quoi. C'est-à-dire que, quand on tombe sur la conclusion, on se dit, tiens, c'est fou, on n'avait pas compris que, en fait, c'était un poème sur la mort et que, et puis quand on relit, on se rend compte que si, ben voilà, Rimbaud a annoncé dans le choix de plein de mots, il annonce que en fait la scène est terrible. Ben moi, c'est un petit peu la même chose dans Anima Motrix d'une certaine façon, c'est-à-dire que on a l'impression que la question des réfugiés comme ça, peut-être, elle arrive un peu de nulle part. Et en fait, quand on relit ensuite, on se rend compte à quel point c'est annoncé par toutes les scènes précédentes.
Alors, c'est amusant d'ailleurs ce que tu dis à propos de cet accompagnement du lecteur et au fait que tu es intarissable quand tu es en rencontre, que tu as envie de donner des explications, de guider, d'amener les gens, parce qu'il y a quelque chose de, finalement d'assez presque... Allez, on va pas dire pédagogique parce que ce serait peut-être pas le mot approprié, mais en tout cas, tu es dans la transmission des choses. Et d'ailleurs, c'est un thème. Bon, peut-être qu'on pourra revenir aussi. C'est un des thèmes de tes livres, cette histoire de transmission, de choses qui se transmettent comme ça à travers la génération. Mais déjà, on te voit assez souvent en rencontre publique. Tu es dans l'échange, dans le dialogue. Et tu es à l'opposé, une fois de plus, de l'image de l'écrivain abstrait, enfermé dans une forme et dans son univers. Tu as envie de faire partager des choses et d'être dans le mouvement, une fois de plus.
Ah oui, oui. Bah, d'une certaine façon, si je caricature un peu, j'ai envie de dire que je n'ai pas d'univers. C'est-à-dire que moi, mon univers, c'est le même que le tien, c'est le même que les gens qui nous écoutent, c'est le même que Véronique qu'on a croisée. C'est-à-dire que je vis dans une époque... à un endroit précis, etc. Et le but de l'écriture, c'est d'arriver à intensifier tout ce qu'on vit, mais tous ensemble. C'est-à-dire que je ne fais que aborder des choses que tu vis aussi, que, enfin, tu vois, ou dont t'entends parler, etc. Donc, moi, mon univers, c'est l'univers commun. C'est-à-dire que je vois pas l'intérêt que je pourrais éprouver à développer quelque chose qui serait mon univers. Ce serait un truc complètement autiste. Enfin, tu vois, ça m'intéresse pas. Effectivement, moi, ce que je veux, c'est la, entre guillemets, la communion, mais vraiment communion au sens très laïque, quoi. C'est-à-dire c'est l'échange, le frottement, la contradiction, l'accord, enfin, mais avec les gens, quoi. C'est avec ce qu'on vit, avec ce que, voilà, comment est-ce que vous avez perçu tel événement, qu'est-ce que ça vous a fait, comment moi je l'ai perçu, mettons nos deux regards. C'est pour ça que tous mes livres ont cette dimension polyphonique, c'est toujours multiplier les voix et pour essayer de faire que par rapport à un événement donné, que ce soit par exemple la guerre d'Algérie ou les afflux de réfugiés sur les plages dans le sud de l'Europe, par rapport à un événement donné, essayer d'en rendre tout le jus et donc essayer de multiplier les regards autour de ça. Donc oui, déjà dans les bouquins, il y a déjà cette dimension comme ça de friction et d'échange qui se joue.
Et c'est aussi pour ça que tu es un écrivain complètement contemporain, même si certains de tes livres sont absolument dans le passé. Alors ça peut être la guerre d'Algérie, ça peut être avec la déconfiture gigantale du sérieux, ça peut être encore plus loin, ça peut être avec Anastylose, Rome, l'archéologie. Donc on peut se dire, tiens, Arnaud Bertina, c'est un écrivain qui finalement est un écrivain hors temps un petit peu, mais justement ce que tu dis montre le contraire.
Ah ouais, pas du tout. Et puis alors là, je peux les repasser tous en revue et pour prouver le contraire, quoi. C'est-à-dire que par exemple, La déconfite gigantale du sérieux, c'est un livre, c'est une petite fiction que j'ai imaginée qui se passe soi-disant en Italie en 1830-36. Alors que concrètement, qu'est-ce que c'est ce petit livre ? C'est une satire déguisée de certains tics dans les discours des écrivains contemporains aujourd'hui, quoi. Pour dire, voilà, regardez, dans les discours des écrivains contemporains aujourd'hui, il y a quantité de modes de pensée et d'idées très romantiques qui nous viennent du romantisme des années 1830 et qui sont une survivance complètement débile, grotesque, etc. Bon, ben voilà, tu vois, simplement, j'ai utilisé tous les ressorts de la fiction, j'ai déplacé la chose dans l'espace et dans le temps, etc. Mais en fait, c'est vraiment un livre, pour le coup, très, très contemporain. Anastylose, qui est donc sur un monument de la Rome antique, un monument qui a été dressé par l'empereur Auguste, c'est en fait, évidemment, un parcours de la Rome d'aujourd'hui, où les signes du fascisme, où les signes de l'Empire sont tous partout présents. Et donc, on voulait, nous, montrer, justement, comment, aujourd'hui, la propagande, l'idéologie s'inscrit dans les murs de la ville, quoi. Donc c'est...
Oui, d'autant plus que tu étais en Italie, c'était le résultat de ton séjour à la Villa Médicis à cette période-là, au moment où on voyait ressurgir, enfin il était déjà là, mais...
Il était là.
le personnage de Berlusconi. Ouais.
Tu vois, d'une certaine façon, j'ai envie de te dire que ce bouquin-là, Anastylose, qui se présente peut-être comme ça, comme un truc un peu érudit, en fait, il est né d'une seule chose, c'était de voir les Pakistanais vendre dans les rues de Rome les posters, dont des posters de Mussolini, tu vois. Mmh. Par exemple, ça suffit à faire de dire, c'est pas possible, il faut qu'on travaille sur cette question là quoi, sur la présence du politique dans les murs, le fait de voir aussi souvent le nom de Mussolini dans les plaques commémoratives, dans les immeubles, etc., de voir qu'il a pas été gommé, etc., enfin tu vois, des trucs comme ça. Ou par exemple Le Dehors, mon premier roman qui donc est sur la guerre d'Algérie et autour de la guerre d'Algérie, pour moi c'était une façon d'essayer de comprendre comment on pouvait, en 1995, avoir un tel pourcentage en faveur du Front National aux élections, et comment on pouvait avoir encore un racisme très violent entre les communautés françaises de base et puis les communautés maghrébines, etc. Donc c'était pour moi une enquête sur le présent, c'était une archéologie du présent, quoi. C'était pas du tout un roman avec des effets comme ça, historiques, pour faire très années 60 ou autre, quoi.
D'ailleurs, est-ce que tu as pas eu l'impression d'une sorte de malentendu par rapport à la réception de ce premier livre, où on a beaucoup beaucoup signalé le fait que voilà, enfin un écrivain jeune qui s'intéresse à la guerre d'Algérie. Alors le enfin justement pouvait être assez agaçant, parce que je pense qu'il y avait quand même déjà pas mal de choses. Il y a des romanciers qui sont intéressés.
Tout à fait.
Et à chaque fois on fait comme si on redécouvrait le fait qu'un écrivain s'intéresse à la guerre d'Algérie.
Exactement.
Et puis ce rapport qu'on pouvait faire entre ta jeunesse et le fait que évidemment tu n'avais pas vécu ces événements et ton intérêt pour cette période.
Je pense que ça repose sur un truc qui est tout simple. On a perdu de vue, je crois, j'ai l'impression, ou peut-être qu'on l'a toujours perdu de vue, le fait que la littérature traque une vérité qui est exactement parallèle à la vérité des faits. C'est-à-dire qu'effectivement ça n'est pas les faits, ça n'est pas les faits historiques, mais elle propose, en travaillant la question du regard, elle propose voilà, une vérité qui est exactement parallèle à celle des faits. Et donc, résultat, on a perdu de vue que le roman, c'est aussi un outil de connaissance du monde, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, quand quelqu'un de 25 ans écrit sur la guerre d'Algérie, alors que la guerre d'Algérie est finie depuis 40 ans, on dit, mais tiens, c'est bizarre, comment il a pu faire ça, alors que ça sonne juste, comment est-ce que ça peut... Mais c'est tout simple, c'est qu'il n'est évidemment pas utile d'avoir vécu à Carthage pour écrire Salammbô, quoi. Je veux dire, c'est simplement, qu'est-ce qui se passe? On écrit, et en écrivant, on fait très très attention à ce qu'on écrit, évidemment. C'est pas comme ça du premier jet qui est balancé. C'est-à-dire qu'on pèse chaque mot, on pèse chaque paragraphe, on pèse chaque chapitre. On se dit, tiens, est-ce que c'est juste ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça sonne juste? Et à partir de là, si on a cette attention-là comme ça à ce qu'on est en train d'écrire, eh ben oui, ça sonnera juste et on arrivera à débusquer des vérités qu'on n'a pas vécues et qu'on n'a même pas trouvées dans des livres d'histoire ou autre, quoi. Je pense que c'est surtout là qu'il y a un malentendu, quoi. C'est-à-dire que les gens ont du mal à accepter l'idée, qui est de fait un petit peu compliquée, un peu étrange, même parfois pour certains un peu magique, du mal à accepter que l'idée que le roman puisse être un outil de connaissance du monde, quoi. Alors que c'est de la fiction, et ben ouais, mais des fois la fiction permet de dire beaucoup plus que les faits, et elle opère une sorte de réduction, quoi, une sorte de concentré, en fait. Et moi c'est ça qui m'excite énormément, en fait, par exemple, je vais juste prendre une petite anecdote. Le dernier chapitre du Dehors, c'est un chapitre qui se passe en mai 68 à Paris, et j'ai conservé de mai 68 à Paris que l'occupation du théâtre de l'Odéon. Je n'ai évidemment pas vécu l'occupation du théâtre de l'Odéon. Simplement, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un numéro de Paris Match de l'époque, et il y avait un tout petit encadré qui parlait justement, voilà, il disait, tiens, le théâtre de l'Odéon vient d'être pris par les étudiants, etc. Et il racontait que Jean-Louis Barrault s'était donc installé, s'était déporté au restaurant de poisson qui est en face sur la place, et puis il était à l'étage, et puis il voyait tous les étudiants rentrer. Et, nous dit le journaliste de Paris Match, il était consterné parce que de voir autant de monde rentrer dans son théâtre, si c'était un soir payant, il ferait une recette fantastique. Et eh ben moi, qu'est-ce que je fais? J'ai 25 ans, c'est en 1998, je tombe sur cette page. Je me dis, cette page, c'est évidemment faux. C'est évidemment une imbécilité sans nom d'un journaliste. On n'imagine pas 10 secondes Jean-Louis Barrault penser ça. Se dire, tiens, j'aurais vraiment fait de l'argent ce soir s'il y avait autant de monde. Et ben voilà. Donc c'est pas la peine d'avoir vécu. Il suffit juste de tomber comme ça sur des espèces d'éclats de réel, comme ça, qui sont très problématiques. Et puis ensuite de les mettre en scène, de les développer. Donc moi j'ai fait que développer cette scène-là, disons, sur 40 pages. Mais ensuite, au résultat, je débusque quelque chose de juste. C'est-à-dire que mai 68 était très excitant, c'était une énergie incroyable. Mais des fois, on s'en prend dans ces moments-là, on s'en prend à des gens qui ne le méritent pas. Et Jean-Louis Barrault n'était pas le pire des gestapistes malrussiens de l'époque, quoi. Il y avait des cibles bien plus importantes à aller choper. Donc voilà, je développe cette friction-là. Mais... Et donc je pense que ça sonne juste ce passage-là, alors que voilà, j'étais pas dans la salle, j'ai pas connu Barreau.
À l'air libre, Pascal Jourdana,
Arnaud Bertina.
Développer une friction, ça c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que c'est aussi un processus, alors là vraiment d'écriture qui se produit à chaque fois dans tes livres, où on a l'impression, et c'est encore le cas avec le dernier, Ma solitude s'appelle Rando, où les choses finalement, au fur et à mesure de l'avancée du texte et de l'avancée du livre, se développent et s'ouvrent de plus en plus.
Oui, en fait, moi, dans ce livre-là, tu vois, c'est pareil, ça recoupe ta question précédente, c'est-à-dire, ce livre-là, c'est la vie de quelqu'un entre 1910 et 1990. Donc, on pourrait penser, tiens...
D'ailleurs, on croise des personnages qu'on voyait dans...
Oui, tout à fait, dans le dehors.
Dans le premier, ouais, dans le dehors. Ouais.
Donc, on pourrait se dire, tiens, c'est à nouveau un truc historique, etc. Mais en fait, pas du tout. Moi, mon envie d'écriture qui est liée à ce livre-là, c'était en fait de développer l'idée d'une liberté discrète, c'est-à-dire quelqu'un qui ne fait pas de grandes déclarations, n'envoie pas chier sa famille en disant vos valeurs, votre morale, j'en veux pas, etc. Il n'y a pas de claquage de porte, etc. Et c'est juste quelqu'un qui, tout en restant très proche des siens, va réussir à être beaucoup plus libre qu'eux. Il va réussir à inventer comme ça une circulation dans sa vie, va réussir à inventer des courants d'air dans sa vie et dans la morale de son milieu, pour se sentir libre. Ça, c'est un truc qui vaut... je veux dire, si j'ai eu envie de l'écrire, c'est justement que j'ai envie aussi de me l'appliquer à moi, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie d'être dans cette circulation-là. Donc, c'est pas, à ce titre-là, c'est pas du tout un livre historique, quoi. C'est pas du tout un livre sur le passé ou sur des figures du passé. Et donc, oui, ce mouvement que tu dis là, c'est-à-dire ce mouvement d'ouverture, oui, c'est quelque chose que je trouve toujours très beau. C'est-à-dire, quand le début du livre, c'est une sorte de course d'appel. Et puis ensuite, à un moment, voilà, on a tellement couru, où le perchiste, voilà, il court, qu'à un moment, il a suffisamment d'élan pour planter sa perche et puis pour décoller. Et j'ai tous mes livres, en fait, je les pense comme ça, c'est-à-dire, voilà, il y a une sorte de tour de chauffe, le début, voilà, c'est poser les choses, courir, et puis à un moment, c'est bon, il y a suffisamment d'énergie, et hop, le texte s'envole, quoi. Je traque cette énergie-là dans tous les bouquins, c'est-à-dire que, et il y a un moment, hop, ça décolle, quoi. Il y a assez d'énergie, tu peux lâcher la chose, quoi. Je sais pas, c'est comme en bobsleigh, quoi. Il court, et puis à un moment, c'est bon, il est suffisamment lancé, donc ils montent tous dans le bobsleigh, et puis hop, ils sont lancés. Moi, mon rêve, avec le bouton de rose que je décrivais tout à l'heure, mon rêve, c'est que tous mes livres ressemblent à un bobsleigh lancé sur une piste de...
C'est une image originale.
Oui, comme le bouton de rose. Mais tu vois, c'est deux images qui, pour le coup, sont très, très concrètes, quoi. Qui ne sont pas du tout des images, disons, d'ordre intellectuel. La première chose qui me pousse pour écrire, c'est toujours des choses assez... ça peut être une lumière, ça peut être un mot, ça peut être... c'est pas des idées, quoi.
Mais ça, c'est assez inattendu aussi, quand on suit un petit peu ton parcours, parce que tu as tout ce travail romanesque, mais aussi tout ton travail de critique. Alors, je sais pas si on peut dire critique, d'ailleurs, pour toi, mais en tout cas, tu t'es intéressé au travail des autres. Tu cherches à en rendre compte dans des petites notules, qui étaient d'ailleurs tes premiers textes, sur des écrivains très différents. D'ailleurs, tu as une curiosité aussi assez éclectique de ce côté-là. Mais ta participation aussi à des revues, aujourd'hui, qui sont particulièrement pointues pour... la connaissance de la littérature contemporaine. Donc on pourrait se dire, il y a un intérêt théorique et abstrait chez Arnaud Bertina qui correspond pas finalement à ce que tu dis dans l'image qu'on a de toi, une fois de plus, hein.
Mais je suis pas sûr de ça, parce que je pense pas que les articles que j'ai pu écrire, qui sont des articles assez longs, tu disais notule, je l'ai très très mal pris. Ils font 15 pages à chaque fois.
par rapport à Anima Motrix, c'est...
Oui, voilà. On va dire ça. En fait, dans ces articles-là, si on les lit, en fait, ce sont pas du tout des articles jargonnants ou des articles qui sont justement abstraits. En fait, encore une fois, quand je suis lecteur de romans ou de poésie contemporaine, c'est toujours pour voir comment l'auteur se débrouille avec les mots, quelle énergie il arrive à mettre dans ces mots-là, etc. Et donc, même le discours que je peux tenir sur ces livres-là, je pense, c'est pas un discours intellectualisant. Mmh. C'est-à-dire que je ne cherche pas à montrer à quel point ces livres sont intelligents, je cherche à montrer à quel point ces livres portent de la vie et brassent de la vie et complexifient la vie et enrichissent la vie. Quoi. C'est, par exemple, un de ceux que j'avais pu faire, c'était sur Les trapézistes et le rat d'Alain Fleischer, qui était un livre qui m'avait beaucoup enthousiasmé, qui n'est pas du tout un livre d'intello. Oui. Et l'article, oui, que j'ai écrit dessus n'était pas du tout un livre pour chercher à rendre le livre intello. Oui. C'était pas du tout ça. Je veux dire, il y avait une... non, ça c'est... pour moi, ça c'est un truc important. Qu'est-ce que c'est en fait écrire sur les autres? C'est tout simplement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est ne pas me penser comme un individu isolé comme ça, qui serait une sorte de créateur. Non, c'est au contraire, c'est des gens écrivent autour de moi. D'abord, des gens ont écrit avant moi, et puis des gens écrivent en même temps que moi. J'ai besoin pour mieux goûter le monde dans lequel j'évolue, j'ai besoin de savoir ce que les autres en font, comment les autres le transforment, qu'est-ce qu'ils font évoluer dans l'art du roman, comment ils travaillent leurs phrases, etc. Parce que, tout simplement, je me dis, ça va m'enrichir, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup à gagner, et en termes de plaisir, et en termes ensuite, moi, d'écriture, j'ai beaucoup à gagner à aller voir ce que font les autres autour de moi, quoi. C'est-à-dire à ne pas rester dans une espèce de bulle et... je sais que lire les livres de François Bon, ça a été pour moi quelque chose d'absolument décisif. C'est-à-dire que j'avais 20 ans, j'avais des envies très très fortes d'écriture, mais je savais pas du tout me débrouiller avec la modernité, disons. Et tout d'un coup, je suis tombé sur cet auteur qui, lui, au contraire, arrivait à combiner le travail de la phrase, donc un travail qui peut sembler parfois comme ça artificiel, qui l'est pas du tout chez lui, mais le travail de la phrase avec une préoccupation sociale et politique, une inscription sociale et politique très forte. Et donc tout d'un coup, pour moi, je me suis dit, mais oui, c'est possible donc de faire ça. J'avais ces deux postulations-là, ouais, en moi. Ouais. Je voulais qu'il y ait une dimension politique dans ce que j'écrivais, et je voulais aussi que, voilà, faire bouger chaque phrase, qu'il se passe à chaque fois quelque chose dans une phrase. Mais je me disais, tiens, est-ce que cette dimension formelle, est-ce qu'il est possible de la combiner avec une dimension, ouais, comme ça, avec un souci politique, etc. Et tout d'un coup, je tombe sur François Bon et je me dis, bah oui, voilà, c'est possible. Et donc, pour moi, il y avait, tout d'un coup, il y avait quelque chose qui se levait, qui, voilà, qui était devenu possible. Ouais. Mais tu vois, je reviens une dernière fois sur cette question-là, comme ça, d'un truc un peu intello. Par exemple, Claude Simon, tu vois, les reproches que tu m'adressais, enfin, pas les reproches, mais ce que tu me disais sur la façon qu'on peut avoir des fois de percevoir mes livres, on peut le dire aussi des livres de Claude Simon, c'est-à-dire que c'est des livres qui sont en apparence très fermés, dans lesquels on a du mal à rentrer, etc. Mais moi, donc ça a été de fait mon expérience des livres de Claude Simon, c'est-à-dire que j'ai mis peut-être 5 ou 6 livres avant de commencer à rentrer dedans. Et puis, au bout de 5 ou 6 livres, où j'étais complètement perdu, je ne comprenais jamais rien, etc., tout d'un coup, les choses ont commencé à se clarifier un petit peu. Et puis, un jour, j'ouvre l'Acacia, et là... Mais j'étais dans un état de fascination pour ce que je lisais. C'est-à-dire que tous les problèmes de lecture que j'avais pu rencontrer, les problèmes de construction, les problèmes de phrases, les problèmes de changement de syntaxe, etc., tout ça, je le voyais même plus. Et j'étais plus que fasciné par les chaussures des deux femmes qui, au début de l'Acacia, traversent les champs pour aller à la ville et qui ont leurs chaussures pleines de boue. Mais ça, pour moi, tout d'un coup, cette scène-là avait une puissance hypnotique délirante. C'est-à-dire que, tout d'un coup, c'était plus du tout une construction intellectuelle. Et Dieu sait si Claude Simon s'est toujours moqué comme ça des analyses beaucoup trop intellectuelles qu'on pouvait faire sur son travail. C'était plus que de la matière, c'était plus que de la matière phosphorescente, tu sais, fascinante, quoi. Moi, mon horizon à moi, c'est le même. C'est-à-dire que je suis là, devant la matière, je suis des fois dans un état de fascination ou devant... je sais pas si je peux le dire, les fesses d'une femme dans la rue ou des trucs comme ça. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, là, il y a des choses qui me fascinent parce que je trouve ça sublime et tout. Et je me dis, ben là, je pourrais commencer un livre. Ça me suffit comme lancement dans l'écriture.
On en revient à l'idée de beauté aussi que tu évoquais tout à l'heure. Tu commences une phrase et puis tu peux t'arrêter simplement parce que tu as envie là de montrer à quel point ça peut être beau de s'arrêter justement dans
exactement exactement c'est comme dans le jazz, les syncopes, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup voilà, et ben hop, si on voulait faire de la musique sirupeuse, on pourrait continuer la mélodie, mais si on veut y mettre de l'énergie, ben au contraire, il vaut mieux l'arrêter là en suspens. Et comme ça, ensuite, la personne dans la tête prolonge tout seul la mélodie. Je sais pas si ça t'arrive ça, mais moi ça m'arrive souvent dans le jazz, justement. C'est-à-dire que t'as un petit bout de motif dans un solo, Tu vois, tu as un motif mélodique, tu dis « Ah tiens, ça serait trop bête, il aurait pu le prolonger, il aurait pu le poursuivre ce motif-là. » Le problème, c'est que dans ce cas-là, ça, c'est du top 50. Ouais. Tandis que là, ce qui est magnifique, c'est que toi, ça crée du désir, tu sais. C'est-à-dire que tout d'un coup, dans ta tête, tu le prolonges, ce petit bout de phrase musicale. Et ça, c'est très très beau parce que résultat, tu participes en fait à ce que tu es en train d'entendre. Moi, dans les bouquins, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, je rêve que chacune de mes phrases, ce soit toujours... comme ça, t'aperçois quelque chose sur le côté. Tu sais, t'es en train, t'es en voiture, et puis hop, t'aperçois il y a une rue, il y a un chemin qui part sur le côté. T'as pas le temps de t'y arrêter, mais tu sais que c'était là. Ben, je voudrais que toutes mes phrases, ce soit ça. C'est-à-dire que t'avances, t'es pris par une énergie, et puis sur le côté, il y a plein de phrases, il y a plein de chemins, de traverses, tu vois, qui démarrent. Ben, tu peux pas tous les explorer. Mais tout d'un coup, ça agrandit l'espace, quoi. Ça agrandit les possibilités, etc. Et donc, voilà, je trouve ça beau que ça reste à l'état d'ébauche de temps en temps, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des choses, voilà, il y a des phrases qui s'arrêtent, il y a des idées qui s'arrêtent, il y a des scènes qui s'arrêtent. Mais obligatoirement, le lecteur, lui, il va les prolonger, en fait. Et résultat, il participe. Moi, les bouquins que j'écris, c'est justement pour vivre quelque chose avec les lecteurs, quoi. C'est-à-dire pour que le lecteur s'implique, pour qu'il construise aussi son histoire, qu'il prenne sa part au Lego, quoi. C'est le... ce que je veux. Je ne peux pas prétendre être dépositaire d'un sens, d'un regard sur le monde, d'une signification des choses, etc. C'est stupide de dire ça. Je veux dire, je ne peux pas me pointer devant toi et puis dire, voilà, tiens, je te donne mon nouveau livre, voilà, ça te donne telle vision sur le monde. Mais non, ça n'a pas de sens et ça ne peut pas t'intéresser, ça, c'est pas possible. Je veux dire, la seule chose qui peut t'intéresser, c'est quelqu'un qui te dit, tiens, on va regarder le monde ensemble et puis on va voir ce qu'on en détache, on va voir ce qu'on en retient et on va voir ce qui nous émeut. Ça marche, quoi. Mais donc ça suppose que le travail du lecteur soit un travail actif, quoi. Et c'est justement parce que c'est un travail actif, c'est-à-dire parce que tu participes avec moi à la construction du livre, que c'est jouissif, quoi. Oui. Qu'on débouche sur quelque chose de beau. Sinon t'es là, on te passe des tableaux devant les yeux et puis qu'est-ce que ça te fait, c'est pas.
Écoute. Arnaud, je crois que le mot que tu as utilisé le plus souvent, c'est énergie. Et je voudrais te remercier de ça, à la fois en tant qu'intervieweur pour aujourd'hui, parce que tu as montré beaucoup d'énergie, et puis en tant que lecteur, parce que je crois qu'effectivement, c'est au moins ça qu'on peut retenir en lisant tes textes et en se plongeant dans tes livres. C'est toute cette énergie et toute cette envie de vie et cette jouissance. Donc voilà, j'invite nos auditeurs à faire de même. Merci beaucoup, Arnaud.
Merci à toi, c'est gentil. D'ailleurs, je sais pas si on a le temps de continuer, mais c'est justement ça qui est difficile. C'est-à-dire que quand les gens viennent me dire c'est difficile vos livres et tout ça, et ben en fait ça me vexe. Je leur en veux pas du tout, c'est pas ça, mais ça me vexe parce qu'au contraire, comme moi je suis que dans cette décharge d'énergie là, je me dis c'est bon sang, c'est trop bête que eux se prennent un mur, quoi. Résultat, c'est pour ça aussi que j'aime bien expliquer, parce que j'ai envie de les embarquer avec moi, quoi. Je veux pas qu'ils restent face à cette difficulté là parce que elle me fait pas plaisir du tout, quoi.
Ça s'entend, et je crois que c'est aussi pour ça que j'avais envie qu'on l'évoque. C'était pour pouvoir combattre cette idée. Merci encore, Arnaud. Merci. Et on entend les trains qui s'en vont, donc on va partir avec eux.
Con toda palabra, con toda sonrisa.
Voilà, ainsi s'achève cette rencontre promenade à l'air libre avec Arnaud Bertina dans l'espace protégé, un peu bucolique, qui se situe au-dessus de la gare Montparnasse à Paris, où nous sommes restés une heure au milieu des arbres et des oiseaux, tout en entendant le départ de certains TGV. Donc cette rencontre a évoqué plusieurs livres écrits par Arnaud Bertina que vous pourrez retrouver sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. À la rubrique à l'air livre, vous retrouvez l'ensemble des références. Et puis j'ai envie de vous citer aussi le dernier ouvrage de Véronique Ovaldé, Et mon cœur transparent, paru aux éditions de l'Olivier. Véronique Ovaldé, que nous avons croisé complètement par hasard au début de cet entretien. Voilà, prochaine émission à l'air livre, le premier mercredi de chaque mois, donc en l'occurrence le premier mercredi du mois de décembre. À très bientôt.
palabra con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara.